Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 104, pour le samedi 21 mai 2011, compte rendu du colloque de la COPEPS, vague d'OVNI sur la Belgique, 20 ans d'enquête. Hier soir, donc le 14 mai 2011, se déroulait le colloque de la COPEPS qui s'intitulait Vague d'OVNI sur la Belgique, 20 ans d'enquête au centre culturel de Berouet dans le Brabant Wallon en Belgique. Et je vais vous présenter un peu mes impressions de ce colloque. Bien entendu, la COPEPS, qui est donc la continuation de la SOBEPS avec de nouveaux statuts, donc maintenant c'est une association de fait, sans but lucratif, n'est pas une organisation sceptique. Je ne vais pas vous passer des extraits de ce qui a été dit, bien que j'ai enregistré en fait les différentes interventions, mais les organisateurs de ce colloque se gardent le droit de diffuser cela, donc je n'aurai pas d'extrait audio des différentes affirmations qui ont été faites durant ce colloque, mais simplement je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Donc j'étais déjà allé à la précédente conférence donnée par la SOBEPS en son temps pour fêter les 10 ans de la vague. Celle-ci s'était déroulée à l'époque dans les locaux de l'Université libre de Bruxelles. Si bien évidemment n'importe quelle organisation peut faire la demande d'occuper un amphithéâtre pour une soirée, le lieu avait ajouté une touche de crédibilité certaine au discours des intervenants, renforçant l'idée dans le public qu'il s'agissait de prestigieux universitaires et donc l'argument d'autorité qui va avec. Cette année, le colloque avait lieu au centre culturel de Berouet, qui ne posait pas ce problème. Je dois dire que l'endroit était agréable entre les diverses salles et la buvette. Donc le colloque s'accompagnait d'une exposition. J'ai commencé par visiter cette exposition qui contenait des panneaux, une série de panneaux, qui présentaient chacun des cas qu'on nous montrait comme résistant à toute explication prosaïque. Dès le deuxième panneau, on nous apprenait que le modèle sociopsychologique, donc l'approche sceptique du phénomène OVNI, ne pouvait en réalité pas en rendre compte. Un point qui me semble évident à ce stade est que les membres de la COBEPS ne comprennent généralement pas bien en quoi consiste réellement l'approche sceptique du phénomène OVNI et où le modèle sociopsychologique. Nous avons droit à chaque fois qu'ils en parlent à des arguments d'épouvantail, c'est-à-dire à des caricatures de la réelle position sceptique. Une maquette de l'OVNI triangulaire typique de la vague belge, basée sur la célèbre photo de Petit Rochin, est suspendue fièrement au plafond de la salle. Une TV diffusait divers documentaires, dont une interview d'Edgar Mitchell, que j'ai regardé quelques instants. Pour rappel, l'astronaute Edgar Mitchell est non seulement un tenant de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI, mais aussi le fondateur de l'Institut pour la science noétique, ou en anglais Institute of Noetic Sciences, dont l'écrivain Dan Brown a parlé dans son dernier roman Le symbole perdu. Et c'est un groupe qui promeut une parapsychologie au relent du nouvel âge. Donc, j'en ai déjà parlé sur ce balado. Les gens les plus connus de cette organisation sont donc Dean Radin et Marilyn Schlitz. Bon, il y a aussi l'argument d'autorité qui intervient ici. Les ufologues tenant l'hypothèse extraterrestre aiment citer Edgar Mitchell. Mais c'est clairement, pour les sceptiques, c'est clairement pas une référence. Si je devais organiser un colloque consacré à l'étude scientifique des phénomènes OVNI, je ne mettrais pas une interview d'Edgar Mitchell. Sa crédibilité est, une fois qu'on s'intéresse véritablement à ses idées, n'est pas très grande. Bien entendu, il était astronaute, mais on peut être astronaute et croire dans toutes sortes de choses farfelues. Bref, on a une interview d'Edgar Mitchell qui passait en boucle à la télévision avec d'autres documents relatifs à la vague belge. Le ton était donné, quoi. On était dans le monde de l'ufologie pro-extraterrestre et pas du tout dans le monde sceptique. Une chose qui m'a particulièrement frappé durant ce colloque est que la COBEX est diverse. Les sceptiques ont tendance à se focaliser sur les figures de proue comme August Mason, Michel Bogart, etc. Mais il y a d'autres gens à la COBEPS qu'on entend malheureusement moins, mais qui semblent avoir des positions plus modérées. C'est souvent les gens les plus extrêmes qui sont aussi les plus vocaux. Donc j'ai eu une conversation très cordiale avec Patrick Ferrin, l'actuel président de la COBEPS, peu après mon arrivée. Là, ensuite, j'ai eu une autre conversation un peu moins cordiale avec August Mason. Je dois avouer que le physicien belge a eu le mérite de tenter de discuter avec moi, alors que personnellement, j'étais parti pour l'éviter autant que faire se peut après l'avoir simplement salué. J'ai déjà eu divers échanges avec August Mason au cours des années, et je suis personnellement convaincu que tenter de dialoguer avec lui est une complète perte de temps. À ce stade de sa carrière ufologique, il s'est engagé beaucoup trop loin pour être capable maintenant de revenir vers des positions plus raisonnables. Et en plus, donc récemment, il a écrit un article qui s'intitule « The Belgian Wave and the Photos of Ramillies » où il contre-argumente encore une fois une idée que moi-même j'ai développée dans un article qui s'appelle « The Beginning of the Belgian UFO Wave » que j'ai publié dans la newsletter Sunlight de Tim Printy. Et donc il contre-argumente là-dessus en disant que évidemment que la vague belge ne peut pas être une contagion psychosociale et que évidemment le modèle sociopsychologique ne peut pas en rendre compte. Dans cet article, donc son article récent de Belgian Wave and the Photos of Ramillies, il contre-argumente par rapport à ma publication et aussi une autre publication qui a été faite par Roger Paquet, un autre sceptique. Mais enfin, c'est son discours habituel où il développe une rhétorique antiseptique avec des arguments qui ne tiennent pas la route, quoi. Et alors, du coup, ça me donnait vraiment pas envie de discuter avec lui. Déjà, dans cet article, d'ailleurs, il commence son article en disant la phrase suivante. Donc, c'est son abstract. Hein. Son article commence par « We restore the truth ». Since two UFO skeptics distorted basic data concerning the beginning of the Belgian wave in 1989 and the observations made at Ramillies in 1990. Donc, August Mason restaure la vérité. Je suis en train de rédiger un article en réponse à sa critique. Roger Paquet l'a déjà fait. Trim Printy, qui le critique aussi quelque peu dans cette publication, a aussi écrit une réponse. Mais Tim Pritty et moi aussi, je crois qu'on souligne tous les deux que c'est pas une attitude scientifique de commencer un article en disant « nous restaurons la vérité ». C'est un discours qui s'apparente plus à de la rhétorique politique ou de la rhétorique religieuse, mais pas un discours scientifique rigoureux. Et je dois dire que là, ça n'a pas loupé. Donc dès le départ de notre courte discussion en tête à tête, il était déjà en train de me dire qu'il était celui qui connaissait la vérité sur le sujet de la vague belge. No comment. Et pour donner un autre exemple, toujours à propos d'August Mason, durant les questions et réponses, il a fait toute une digression à propos de Galilée et de l'opposition que ses idées scientifiques avaient eue, sous-entendant par là bien entendu que le rejet par le monde académique de son propre travail provenait de quelque chose de similaire à ce qui était arrivé à l'astronome italien. Et les sceptiques ont un surnom pour ça, hein, ça s'appelle le syndrome de Galilée. Le syndrome de Galilée, c'est que des génies méconnus, entre guillemets, des gens qui pensent avoir révolutionné la connaissance scientifique, mais dont les théories ne sont pas acceptées par la science, ils voient une sorte de conspiration, ils ont une sensation d'être persécutés. Donc comme Galilée ont été persécutés, ils se voient comme un... Évidemment, Galilée a été persécuté par l'Église catholique, hein, mais alors comme... L'analogie ne fonctionne pas, hein, mais enfin, ils se perçoivent eux aussi comme persécutés, mais cette fois-ci par le monde académique. Et dans les questions-réponses, on a eu droit à ça de la part de August Mason. Hein. August Mason est le nouveau Galilée. Un jour, tout le monde reconnaîtra le génie le fait que ses idées sont révolutionnaires. Après tout, il est celui qui connaît la vérité sur la vague belge, n'est-ce pas? Par contre, l'après-midi fait intéressant, donc j'ai suivi l'atelier 2 qui s'intitulait « Enquête et méthodologie ». Il y avait un autre atelier consacré à l'épistémologie de l'étude du phénomène OVNI, mais j'ai préféré aller à celui consacré aux enquêtes. Et donc là, il y a deux membres de la COBEP, ce que je ne connaissais pas, Jean-Marc Wattecan et Philippe Bria, qui ont présenté deux cas. Alors, ils ont explicitement demandé de ne pas discuter des détails des cas qu'ils ont présentés sur Internet, donc je n'en dirai rien. Mais j'ai trouvé leur présentation bien faite et elle contenait de nombreux conseils pertinents sur comment enquêter sur un cas d'OVNI. Donc cet atelier fait pour moi le point fort de la journée. Ils ont présenté un cas inexpliqué et un cas expliqué, ce que j'ai trouvé une excellente chose, sur lesquels ils avaient personnellement enquêté. Je dirais que le seul bémol est que dans la ligne de pensée générale de la COPEPS, Ils accordent selon moi trop de crédit aux détails testimoniaux donnés par les témoins. Mais j'ai autrement trouvé qu'ils avaient bien documenté ces cas. Après qu'il y ait des observations qu'on n'arrive pas à expliquer, cela ne m'a jamais troublé en tant que sceptique. C'est normal. Il faut juste bien avoir conscience que cela ne prouve rien. Juste qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à expliquer tel ou tel cas. Après, ce fut la soirée. Alors, la soirée fut une défense du caractère exceptionnel de la vague belge par un panel. Donc, dans le panel, il y avait Patrick Ferrin, Léon Prening, Michel Bougard, August Messen, André Hamon et Wilfried de Brouwer. Ils évitèrent globalement de parler explicitement d'hypothèses extraterrestres pour expliquer le phénomène OVNI, mis à part pour August Messen qui s'est quand même fendu lors des questions et réponses d'un, je cite, « c'est l'hypothèse que je trouve la plus raisonnable ». Cependant, même si le mot extraterrestre avait tendance à être évité au profit d'expressions plus vagues du style « intelligence derrière une technologie que nous ne possédons pas à l'heure actuelle », etc. Puis évidemment, ils sont en train de parler d'énormes engins, d'énormes plateformes qui volaient prétendument au-dessus de la Belgique. Je veux dire, évidemment, cette plateforme, enfin, ces engins n'ont pas de technologie que nous pourrions avoir, donc je pense que déjà, par leur discours, ils excluent l'hypothèse AVNI, hein, armes volantes non identifiées, que ce serait... Des engins militaires secrets. Alors je suppose qu'ils gardent ouvert la possibilité de voyageurs temporels, etc. Mais évidemment, ici, comme ils veulent se donner une apparence de sérieux, ils prétendent juste décrire les faits, objectivement, puisque, bon, encore une fois, hein, ils ont accès à la vérité, n'est-ce pas, sans les interpréter. Évidemment, tout le problème, c'est que leur présentation des faits est biaisée. Et donc, malgré ce vocabulaire... louvoyant pour éviter la terminologie hypothèse extraterrestre, on sent bien que l'acheter n'était jamais bien loin. Un bon point à souligner dans cette soirée fut que Michel Bougard se positionna clairement sur le fait que le 5 novembre 1990 s'expliquait par une rentrée atmosphérique. Pour voir sur ce sujet donc l'épisode 97 du balado Le creux de la vague, où j'avais interviewé Robert Alessandri sur le sujet. Et ce, même après que quelqu'un dans la salle lui ait posé une question à propos des positions défendues par Joël Ménard de Lumière dans la nuit à ce sujet. La personne donc adhérait à l'idée aux spéculations de Joël Ménard qui prétend que tous les cas du 5 novembre 1990 ne peuvent pas être expliqués par la rentrée atmosphérique. Mais Michel Bougard s'est quand même exprimé de manière claire, non ambiguë sur le sujet et a rejeté cette idée, ce qui n'a pas fort plu à la personne dans l'auditoire. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sur ce point-là, je suis d'accord avec lui et je pense qu'il a fait un effort pour essayer d'informer les gens sur ce sujet. Néanmoins, c'est après cela que les choses se corsèrent, puisqu'ils avaient donc les membres de ce panel avaient manifestement décidé de répondre à leur contradicteur, qui n'était pas là, enfin j'étais le seul dans la salle, en tant que dans le public, quoi. Donc, ils attaquèrent donc à tout bout de champ, aussi bien les sceptiques en général que nommément Wim van Utrecht et Renaud Leclerc. Ils utilisaient beaucoup la technique qui consiste à ne pas nommer les critiques. C'est-à-dire des sceptiques affirment que, des gens qui se disent sceptiques affirment que, mais sans dire qui c'était. Donc par exemple, August Messen a discuté de certaines de mes idées sans me nommer. Par contre, Wim van Utrecht a été nommé et Renaud Leclerc aussi. Toutes ces attaques autour des sceptiques se déroulaient dans la même soirée, alors où, enfin, dans tout ça, il y avait August Messen qui faisait son speech habituel sur le mode de propulsion, enfin sur ses spéculations à propos du mode de propulsion des soucoupes volantes et tout ce qu'il affirme avoir prouvé de manière incontestable sur le sujet. Et j'avoue que c'était relativement surréaliste. Renaud Leclerc a eu droit à un traitement spécial de la part de Wilfried de Brouwer, donc pendant 20 minutes, à cause de son document « La vague OVNI belge de 1989 à 1992, une hypothèse oubliée ». Le ton général était condescendant et moqueur, mettant en question les qualifications des différents sceptiques. Mais ça a d'ailleurs bien précisé au public que les sceptiques faisaient de la désinformation, bien évidemment. Encore une fois, la façon dont la COBEPS présente les choses est parfaitement objective, c'est la vérité. Tous les gens qui présentent d'autres interprétations des événements, eux, c'est de la désinformation, bien évidemment. Mais de toute façon, August Messen pense qu'il y a de la... vraiment, enfin, il adhère à de la théorie de la conspiration. Il pense qu'il y a une conspiration pour cacher la vérité à propos des ovnis qui vient des gouvernements. Donc je ne sais pas, quand il nous dit que les sceptiques font de la désinformation, je ne sais pas s'il pense que c'est parce qu'il considère que les sceptiques sont incompétents ou que parce qu'on est, vous savez, on est en fait des agents de désinformation du gouvernement, quelque chose du même genre, ou un mélange des deux. Après tout cela, nous avons eu une séance de questions et réponses. Il se fait que par hasard, j'ai le micro en main en dernier, alors que j'essaie de l'avoir depuis un bon moment. Enfin bon, donc le dernier à poser des questions, c'était le sceptique de service, dans une salle bondée. Il devait avoir... Enfin, la salle était remplie, je ne sais pas sa contenance, mais à Vinay, je dirais qu'il y avait probablement peut-être une centaine de personnes, un peu moins. Il faudrait avoir les chiffres, je ne sais pas. Donc, quand j'ai eu le micro, j'ai conseillé d'abord au public d'aller lire les sceptiques pour savoir ce qu'ils disaient réellement et ne pas se fier uniquement aux présentations biaisées auxquelles nous avions eu droit. Je veux dire que Wilfried de Breuer, à propos de la manière dont il argumentait contre Renaud Leclerc, me semblait extrêmement insultante et inappropriée. L'idée qu'il y a eu peut-être des méprises avec des hélicoptères, ça se discute. Hein. Je veux dire, le document de Renaud Leclerc, une hypothèse oubliée, c'était un document de travail. D'ailleurs, Renaud Leclerc nous a quittés avant qu'il ne finisse ce travail et qu'il a été complété par d'autres, hein, une équipe de sceptiques qui ont terminé. Mais donc, ce document, c'est une hypothèse, c'est un document de travail pour faire réfléchir sur le sujet. Mais Wilfried de Breuer, évidemment, pour lui, à un moment, il a montré une photo avec des hommes des cavernes et il prétendait que... Donc son argument, c'était que pour les sceptiques, les Belges étaient des hommes des cavernes incapables de reconnaître des hélicoptères qu'on les envoyait. Donc c'était... Enfin, c'était encore... Ça allait... Non, mais... Enfin, c'est toujours cet argument... un argument éthique. Hein. Les sceptiques ne prennent pas, sont pas gentils parce qu'ils ne prennent pas les témoins au sérieux, blablabla. Bla, bla. Et enfin, y a toujours une confusion des arguments de fait et des arguments éthiques. Hein. Mettons, même si on dit, ok, les sceptiques sont pas gentils pour la fin, sont dans les arguments. Et oui, ils ne prennent pas au sérieux les témoins. Mettons que ça soit vrai, ce que je récuse complètement. Hein. Mais mettons que ce soit vrai, ça ne fait pas, c'est pas un contre-argument scientifique. Les sceptiques ne pourrait ne pas être gentil et quand même avoir raison d'un point de vue scientifique. Utiliser un argument moral pour rejeter une idée, enfin des hypothèses sur des faits, c'est une confusion, c'est un raisonnement fallacieux en fait. Ils confondent deux genres, ils confondent des jugements de moraux avec des jugements de faits. Et bien sûr, pour moi, je pense qu'au contraire, c'est les gens qui s'engagent dans ce qu'on appelle en anglais mystery mongering, hein, donc. Encourager les mystères plutôt que d'essayer de les résoudre, qui méprisent les témoins. Je veux dire, les témoins ont droit à de véritables réponses basées sur la science, et pas à du... Ah, on ne sait rien, on ne sait pas expliquer, enfin... Donc j'ai eu le micro en main, et j'ai posé deux questions à August Messen après la remarque, en disant juste, allez voir ce que disent réellement les sceptiques. Mes questions étaient les suivantes. Première question. Nous savons que la méthode scientifique passe nécessairement par la revue par les pairs, donc par la publication dans des revues scientifiques à comité de lecture. Le physicien prétend avoir prouvé bien des choses sur le mode de propulsion des soucoupes, sur le fait que le modèle socio-psychologique ne peut pas rendre compte du phénomène, ni etc. J'en passe à des meilleurs. Combien de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture a-t-il réalisé sur ce sujet, sur le sujet, par opposition à ses nombreux articles dans la revue de la SOBEPS Inforaspace, ou maintenant sur son propre site web? J'avoue que je connaissais la réponse factuelle à cette question. Il a fait une publication dans la revue de parapsychologie Divinum. On ne peut pas dire que c'est vraiment très glorieux. Et en plus, cette publication porte sur la méthodologie d'étude du phénomène OVNI et pas sur toutes les choses qu'il prétend avoir prouvées scientifiquement, juste sur sa conception très bizarre de la manière dont il faut étudier le phénomène OVNI. Et en plus, il avait fait valoir un droit de réponse parce que Marc Allais avait publié un article dans cette même revue critiquant les travaux de la SOBEPS. Donc, je connaissais la réponse à cette question et je voulais simplement pointer le fait que les affirmations faites par August Messen, qui l'aurait prouvé ceci ou cela, ne sont pas supportées par de réelles publications scientifiques. Ma seconde question était que dans la présentation qu'il a fait aujourd'hui, qu'il avait fait donc... Donc pour ce colloque, il a tenté de minimiser ses convictions profondes en faveur de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI. Donc il a dit « Oh, mais non, mais moi, l'hypothèse extraterrestre, ça n'a pas tellement d'importance. Si on montre des preuves convaincantes, j'accepterai autre chose, blablabla. » Il essayait de noyer un peu le poisson ou de prétendre pour qu'ils ne soient pas attachés à l'hypothèse extraterrestre. Or, il suffit d'aller sur son site web, l'article qui s'intitule « Où en sommes-nous en ufologie ?» Dans cet article, il écrit en vrac. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller le lire. Hein. Taper Auguste Mason, où en sommes-nous en ufologie? Dans cet article, il écrit qu'il pense qu'il y a bien eu un crash de soucoupe volante à Roswell. Donc, évidemment, l'hypothèse du ballon mogul, il n'y adhère pas. Hein. Il y a eu un vrai crash de soucoupe volante. Que les ufologues devraient reconsidérer le film d'autopsie de Ray Santi, hein, donc le fameux film d'une autopsie d'un alien le cadavre aurait été retrouvé à Roswell par l'armée, parce que ce film présente selon lui de l'intérêt. Donc non seulement il y a eu un crash, mais il y a vraiment eu des corps d'extraterrestres. Évidemment, il dit aussi qu'il y a une conspiration des gouvernements pour nous cacher la vérité, qu'il appelle le gouvernement américain à enfin avouer qu'il y a eu un crash à Roswell, qu'ils ont eu des corps d'extraterrestres, etc. Dans cet article-là, il explique qu'il croit que le phénomène des enlèvements par les extraterrestres est bien réel. Il cite des cas qu'il prend tout à fait au sérieux, évidemment. Et il se met à spéculer sur comment fonctionnerait la télépathie des gris, sur le fait qu'ils ont des grands yeux noirs similaires à ceux d'une vache. Faut lire, c'est assez surréaliste. Et il nous apprend aussi que les hommes en noir ou le chupacabra sont des expériences socio-psychologiques menées par les extraterrestres. Encore plus fort, il pense que même le phénomène des contactés, que vraiment peu d'ufologues prennent au sérieux, mais bon, comme George Adamski ou Billy Mayer, même ces gens-là, en fait, ils seraient manipulés par les visiteurs d'un autre monde. Ils racontent des choses incorrectes, ils sont incohérents, etc. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas réellement en contact avec des extraterrestres, mais parce qu'ils sont trompés et manipulés par des visiteurs d'un autre monde. Je vous dis, il suffit de lire cet article-là pour constater que cette minimisation de sa croyance dans l'hypothèse extraterrestre est vraiment ridicule. Enfin, cet article-là date d'il y a, de 2000, donc d'il y a 10 ans, de 2001. On est 10 ans plus tard, mais je serais vraiment très étonné qu'il ait réellement changé d'avis. Je pense qu'encore une fois, peut-être qu'on lui avait suggéré de un peu mettre tout ça en sourdine, toujours encore une fois, pour donner un vernis de sérieux à tout ça. Et donc, ma question, c'était, est-ce qu'il pourrait enfin avoir l'honnêteté intellectuelle d'admettre que tout son travail est guidé par ses croyances profondes et a priori dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI? Parce qu'évidemment, on a eu de la part de Léon Breining et d'autres l'idée que, vous savez, les sceptiques, ils sont contre le phénomène OVNI, a priori, mais nous pas, hein. Nous, on est ouverts, enfin, bon, c'est toujours, soyez ouverts d'esprit, enfin, bref. En fait, à la Sobeb, ils travaillent avec un a priori, même s'ils essayent de le dissimuler ou en tout cas de le calfeutrer pour qu'il soit pas trop évident. Autant dire que je n'ai eu aucune réponse claire de la part d'Auguste Mason à mes deux questions. Bon, il a commencé parce qu'il adore faire des longs discours, donc il a commencé à nous expliquer que, je cite, qu'il y a des choses qu'il permet et d'autres qu'il ne permet pas. Donc apparemment, il ne permet pas que quelqu'un ose pointer son manque de réelle publication scientifique ou son évidente croyance dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI. Soit. Après, je lui ai dit que c'était pas une réponse à ma question. Ma question était, avez-vous publié, oui ou non, dans des revues scientifiques à comité de lecture? Il n'a pas répondu à ce moment. Et Léon Breining et Michel Bogard sont à ce moment-là montés à la défense de leurs confrères. Et je me suis vu répondre à propos des publications dans des revues scientifiques à comité de lecture que, je cite ici Michel Bogard, cette question n'a aucun sens. Je vais répéter, parce que c'est assez prodigieux, je trouve. Cette question n'a aucun sens. Je me trouvais donc devant un universitaire diplômé en chimie et en histoire des sciences pour qui se demandait pourquoi Auguste Mason n'avait jamais réussi à publier une de ses démonstrations dans des revues scientifiques à comité de lecture était juste une question non pertinente. C'est la science, la méthode scientifique revue et corrigée par la SOBEPS. Dans la foulée, j'ai eu droit à une solide couche de ce que les sceptiques surnomment « special pleading », pour justifier leur échec à convaincre la communauté scientifique de la pertinence de leurs affirmations. Special pleading, c'est toute une série d'excuses qu'on invoque. On n'arrive pas à prouver ceci ou cela, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de bons arguments ou de bonnes preuves, ça tient à la nature du phénomène, ou bien parce qu'il y a des choses qui s'opposent contre nous, la science académique résistante à ce genre d'idées, blablabla, ad nauseam. Léon Brennick m'a d'ailleurs retourné la question, me demandant si moi j'avais fait de telles publications, ce qui est un classique renversement fallacieux de la charge de la preuve. Je ne suis pas celui qui ait fait des affirmations extravagantes sur le mode de propulsion des ovnis, sur la vague belge, etc. C'est August Mason, ou c'est à la COBEPS de prouver ce qu'elle avance. Ce sur quoi, Michel Bougard s'est empressé de m'expliquer qu'en réalité, la COBEPS n'affirmait rien. Je trouve que, personnellement, dans la catégorie « ne rien affirmer », ils ne font pas du très bon travail. Il était clair pour tous les gens dans la salle que les personnes sur le podium défendaient l'hypothèse extraterrestre, qu'ils utilisent cette expression ou non. J'avoue que je ne sais pas si mon intervention fut très utile, étant donné que j'étais dans un auditoire rempli de personnes fans des travaux de la SOBEPS. Mais après tout ce que j'avais entendu dire sur les sceptiques durant les deux heures précédentes, il était difficile de me taire. J'ai terminé la soirée à la buvette, en discutant amicalement quelques instants avec un groupe de raéliens qui étaient venus assister au colloque. En conclusion, en guise de conclusion, je dirais qu'un des problèmes de la COBEPS est qu'August Mason a une influence néfaste sur cette organisation, qu'il pousse depuis des années vers des positions pseudo-scientifiques, et un des gros problèmes est que les autres membres ne prennent pas leur distance avec lui. Donc vous voyez, quand j'ai osé critiquer August Mason, Léon Brennick et Michel Bougard se sont rués à sa défense avec des arguments que je trouve assez effarants. Venir dire que la question de la publication dans des revues scientifiques à comité de lecture est une question qui n'a aucun sens quand on est face à quelqu'un qui vient de nous faire une présentation sur les modes de sur le mode de propulsion des soucoupes volantes. Enfin, à un moment, donc, comme je dis, Zek, c'était dommage que sur le podium, il n'y ait que les membres de la COBEPS, c'est que j'aurais aimé, quoi, puisqu'on a beaucoup critiqué les sceptiques, qu'il y ait les sceptiques qui soient là aussi. Hein. J'aurais pu très bien inviter Wim van Utrecht, Marc Allais, Roger Paquet, etc. Brennick donc, m'a répondu qu'il se considérait comme un sceptique et qu'il refusait que je le catégorise autrement dans une catégorie... Enfin, non, que je dise qu'il était un tenant. Après tout ce que j'ai entendu, en tout cas, je peux dire que peut-être que Brennick se pense un sceptique, mais... on est loin du compte. Voilà, c'était un peu mon petit compte-rendu du colloque réalisé par la COBEPS. Pour rappel, j'avais déjà réalisé un épisode à propos de la vague belge précédemment sur le balado. Donc, si vous ne l'avez pas écouté et que vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille d'aller dans les archives, donc sur le blog d'archives, et d'écouter l'épisode 67, intitulé « La vague belge d'OVNI ». Et c'était une interview de Jacques Corneau, où on discutait déjà pas mal de la SOBEPS et de tous ces sujets-là. C'était votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre. Hey mom and dad, I've got to come out and say, I've got to tell you it's the only way. Something I've learned about myself since I was away at college. You really think that I might be a little bit of an anthropologist, mom and dad? I've been led astray. I've been experimenting with archaeology on an excavation. I tried C-14 dating and ground penetrating radar for the first time, if you know what I mean. I see the visions in your head of me digging up dino bones. Or do I study insects in a laboratory all alone? But I'm just looking for the story of our people as a whole, wanting to learn about and understand all cultures as our own. The world seems to increasingly need anthropology. Now we're exploring, asking who, why, and how we be people. The difference between us is not so much. Tell me your story, your piece of what is humanity. Mom and Dad, I think you should know, I do field work everywhere I go. I want to travel, see Peru and Vietnam. My heroes are Margaret Mead and Barack Obama's mom. Did you know she was an anthropologist? If you think of natives on an island painted up singing war songs, it's misleading, though historically you're not totally wrong. But you can do anthropology, reading graffiti, bathroom stalls, or in a war zone, or a December shopping mall.
Then there's linguistics. I think that's how we use our tongues. Physical handles as well as body parts we all have in common. You can even study monkeys. I hear that part's really fun. All these fields tell us part of what it means to be human. The world seems to increasingly need anthropology. Now we're exploring, asking who, why, and how we be people. The difference between us is not so much. Tell me your story, your piece of what is humanity. Tell me your story, your piece of what is humanity. Dad wasn't how you raised me. Anthro professors, they're all kind of crazy. Got their agendas, trying to recruit our POVs. Deep down inside, they're all in love with Malinowski. At the same time, I think it's what my heart has always known. Do you remember Halloween when I was Indiana Jones? All the other kids, they stopped coming around. I had to play alone. I guess they didn't like my kinship charts of all their homes. Some cross-cultural connections might just help us all relate. Misunderstandings at the root of so much global hate. How many wars, metaphors, or literally could be avoided if the world was us instead of you and me? The world seems to increasingly need anthropology. Now we're exploring, asking who, why, and how we be people. The difference between us is not so much. Tell me your story, your piece of what is humanity. The world seems to increasingly need anthropology. Now we're exploring, asking who, why, and how we be people. The difference between us is not so much. Tell me your story, your piece of what is humanity. Tell me a story, a piece of what is humanity.